Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Il est bon de célébrer sa bonté, sa fidélité qui dure éternellement, n'est-ce pas vrai? Un jour, nous verrons sa face. Un jour, nous le contemplerons. Rien qu'à penser à ce jour, nos cœurs se réchauffent, n'est-ce pas vrai? Nos cœurs sont touchés rien qu'à penser à ce jour glorieux. Alléluia. Et il revient bientôt. Que nos cœurs soient toujours bien près de lui. Alléluia. Il nous a laissé sa parole pour que nous puissions toujours mieux l'aimer. Mieux le connaître. Celui qui ne connaît pas sa parole ne connaît pas le Seigneur. Nous ne pouvons pas connaître le Seigneur si nous ne connaissons pas sa parole. Le seul moyen de connaître la parole de Dieu, de connaître le Seigneur, est de connaître et d'obéir à la parole de Dieu, n'est-ce pas vrai? Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pourquoi il est bon de revenir constamment à cette parole, car elle est notre nourriture spirituelle. Et ce matin, j'aimerais qu'on voie une autre vérité importante pour l'Église et pour chaque chrétien. Bien souvent, dans la parole de Dieu, l'Église est comparée à un corps. Et ce n'est point pour rien que l'apôtre Paul, en particulier, nous donne cette image de l'Église qui est un corps. Car si nous voulons que l'Église soit vraiment telle que Dieu la veut, alors nous devons retirer de ces images bibliques des leçons importantes pour nous. Dieu ne nous a pas laissés dans le vague. Les vérités spirituelles sont bien souvent vues dans des vérités toutes naturelles qui sont auprès de nous. Nous n'avons aucune excuse. Dieu nous a donné tant d'images, tant de symboles, tant de réalités pour que nous sachions ce qu'il faut faire. Et comme nous faisons partie du corps de Christ, car seuls ceux qui sont nés de nouveau font partie du corps de Christ. Ce ne sont pas ceux qui se disent chrétiens ou qui ont une religion chrétienne qui font partie du corps de Christ. Ce sont ceux qui sont nés de nouveau, régénérés par le Saint-Esprit, qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont tourné le dos au péché, au monde, à Satan, pour se tourner vers le Seigneur. C'est l'évangéliste Moody qui disait « L'homme est né en ayant le dos tourné à Dieu. » Nous sommes nés avec le dos tourné à Dieu, dans la rébellion. Et c'est pourquoi nous devons nous convertir. Et la conversion veut dire se détourner de notre vie passée et suivre le chemin opposé à celui qu'on suivait. Amen. Et une fois que nous faisons partie de l'Église qui est le corps de Christ, alors pour que cette Église fonctionne normalement et qu'elle soit bénie et dans le plan de Dieu, nous devons obéir à certaines règles spirituelles. Et si l'apôtre Paul compare l'Église à un corps, quand nous parlons de corps, quand nous voyons un corps, le corps nous rappelle beaucoup de choses. Le corps est un véritable mystère, n'est-ce pas ? Une perfection. C'est une perfection, le corps humain. Il y a une harmonie dans le corps humain extraordinaire. Il y a une sagesse dans le corps humain extraordinaire. Il y a une beauté dans le corps humain, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une unité dans le corps humain, c'est extraordinaire. Tout cela, c'est dans un corps. Et si l'apôtre prend l'Église comme un corps, c'est qu'il veut que dans l'Église, il y ait toutes ces images que nous trouvons dans un corps. Et c'est ainsi que le corps de Christ atteindra sa pleine maturité. Amen. Car la volonté de Dieu est que nous atteignions une pleine maturité. Il ne veut pas que nous restions bébés éternellement. Il veut que nous grandissions. C'est son but, c'est son plan. Un corps est signe de santé, de vitalité. N'est-ce pas vrai? Et dans l'Église, il y a tout cela. C'est pourquoi nous allons voir quelques images. Au travers de ce corps, le Seigneur veut parler à son Église locale comme à son Église universelle. Il y a des lois qui régissent un corps, vous êtes d'accord avec moi? Il y a des lois qui régissent notre corps physique. Si nous ignorons ces lois, c'est la maladie, c'est l'impotence, c'est la faiblesse. Et ainsi, le corps ne peut atteindre son plein épanouissement. Il en est de même dans l'Église. Il y a des règles précises. Et nous allons voir donc sept lois physiques qui gouvernent le corps. Et au travers de ces sept lois physiques, nous allons voir ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, afin que, en tant qu'Église, nous puissions vivre ce que Dieu a préparé pour nous, n'est-ce pas vrai ? Comme un corps, s'il n'obéit pas à toutes les lois physiques, ne peut atteindre sa pleine maturité. Il en est de même de l'Église. S'il n'obéit pas aux lois spirituelles, elle ne peut atteindre sa maturité. Et nous pouvons rester des enfants, perpétuellement. Et en cela, Dieu n'est point glorifié. Et nous n'atteignons pas aussi le but que Dieu a voulu dans ce monde. Car au travers de l'Église, il a voulu manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous allons lire quelques textes, si vous le voulez bien maintenant, qui nous parlent de l'Église qui est un corps. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, 27. Nous lisons ceci. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Voilà un verset extraordinaire. Un deuxième passage, Éphésiens chapitre 1. Versets 22 et 23, Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23, verset 20 déjà, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voyez-vous, il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. L'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et un autre dernier, Colossiens 1, 18. Colossiens 1, 18. Verset 17 déjà. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Nous voyons donc là quelques vérités importantes concernant l'Église qui est le corps de Christ. Alors, quelles sont les lois toutes simples qui régissent un corps ? La première loi est celle-ci. Chaque membre doit être en communion avec la tête, pour que le corps fonctionne normalement, chaque membre doit être en communion avec la tête. Ça, c'est la première vérité importante. Nous sommes le corps de Christ et chaque membre doit dépendre de la tête, doit être en communion avec la tête. Dans un corps, tout dépend de la tête, n'est-ce pas vrai? Tout est communiqué par la tête. Un corps sans tête est mort. Autrement dit, un chrétien sans communion vivante et personnelle avec son Seigneur est un chrétien qui végétera spirituellement. Donc la première vérité est celle-ci. Chaque membre doit être en communion avec son Seigneur. Notre communion avec Dieu ne doit pas dépendre, premièrement, lorsque nous venons à l'Église. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de communion personnelle avec le Seigneur. Ils expérimentent leur communion avec Dieu seulement lorsqu'ils sont avec d'autres chrétiens. Mais ils n'ont pas de communion personnelle. C'est très grave. Vous êtes d'accord avec moi ? comme tous les membres dépendent de la tête. Ainsi en est-il. Si nous voulons que l'Église soit en bonne santé, si nous voulons atteindre le but que Dieu s'est assigné, chaque chrétien doit avoir sa communion personnelle avec le Seigneur, car c'est de lui que nous recevons la vie. C'est de lui que nous recevons la sagesse. La tête, c'est la sagesse, c'est la vie, c'est la direction, c'est la tête qui nous communique tout cela. D'où l'importance d'avoir une communion personnelle avec le Seigneur. Il n'y a aucun substitut à cela, aucun substitut. Des désastres arrivent dans des vies chrétiennes. Pourquoi ? Parce que les chrétiens dépendent plus de leur église, d'un serviteur de Dieu ou d'autres chrétiens que du Seigneur lui-même. Lorsqu'il n'y a pas de réunion, on n'a plus de communion avec le Seigneur. Lorsque le pasteur n'est pas là, il n'y a plus de communion avec le Seigneur. Lorsque tel chrétien n'est pas là, il n'y a plus de communion avec le Seigneur. C'est une tragédie, n'est-ce pas ? D'où l'importance, si nous voulons que l'Église, qui est son corps, puisse vraiment atteindre sa maturité, chaque membre, sans exception, doit avoir sa communion personnelle avec le Seigneur. Amen. Amen. Indispensable. Il y a trop de chrétiens qui sont des sangsues spirituelles au lieu d'être des donneurs de sang. Pourquoi ? Parce qu'ils dépendent constamment des uns et des autres pour recevoir quelque chose. Nous devons être des donneurs de sang spirituels, dans le sens que, ayant notre communion personnelle avec le Seigneur, nous pouvons être verdoyants malgré la sécheresse autour de nous. Amen. Malgré la sécheresse, toujours verdoyants, comme dans le désert, ces palmiers, toujours verts. On se demande comment ça se fait. Parce que les racines de ce palmier vont en profondeur, jusqu'à atteindre les régions humides du sol, du sous-sol. Ce sont des choses qui ne se voient pas à l'œil nu, mais à cause de ces racines profondes, le palmier peut tenir, peut soutenir n'importe quel désert, n'importe quelle sécheresse, parce qu'il a une communion personnelle avec le Seigneur. Mes amis, c'est là la première vérité. C'est lui le chef, et nous devons dépendre de lui, et ne jamais perdre notre communion avec lui. Et cette communion doit être personnelle. Amen. Personnelle. Et si nous n'avons pas de communion personnelle, c'est là que arrivent les difficultés et les problèmes. Si tous les chrétiens avaient leur communion personnelle, on serait plus en communion avec le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais parce que beaucoup ne sont pas en communion avec le Seigneur, alors ils regardent à l'homme. Quand l'homme tombe, il tombe avec. Les regards sont trop sur l'homme. Première loi physique. Tout le corps dépend de la tête. Chaque membre dépend de la tête. Chaque membre. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit dépendre de la tête et puis les autres, faire ce qu'ils veulent ou ne pas avoir de communion. Non, mes amis. Celui qui n'est pas en communion personnelle avec le Seigneur, il fait du mal aux autres membres sans s'en rendre compte. Quand un membre ne répond plus à la tête, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'atrophie, c'est la paralysie. Le corps commence à perdre de sa beauté, de sa vitalité. Tout cela parce qu'un membre n'a pas sa communion personnelle avec la tête. D'où l'importance d'avoir cette communion-là. celui, celle qui veille à cela, ce sera un chrétien, une chrétienne qui tiendra debout, même dans la sécheresse, même dans la plus grande tempête, même dans la plus grande épreuve. Mais laisse-moi dire une chose, c'est ce que le diable veut absolument empêcher dans ta vie. Il peut te faire faire beaucoup de choses, mais ce qu'il veut t'empêcher en premier, c'est ta communion avec le Seigneur. Car tout dépend de cela. Un chrétien privé de la communion avec Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire ? Devant Dieu, il ne peut rien faire. Mais un chrétien privé de la communion avec son Seigneur, il ne peut plus être utilisé par Dieu. Mais laissez-moi dire une chose. Quelqu'un d'autre peut l'utiliser, c'est le diable. Celui qui n'est pas en communion personnelle avec son Dieu, le diable ne peut pas, le Dieu ne peut pas l'utiliser. Mais le diable, oui. Et c'est ainsi que, sans nous en rendre compte, sans le vouloir, nous pouvons faire un mal terrible aux autres membres. Pourquoi ? Parce que nous ne dépendons pas personnellement du Seigneur. Voyez-vous, ceci est très important. Chaque membre doit recevoir sa vitalité de la tête. Alléluia ! Est-ce que tu reçois ta vitalité de la tête du Seigneur ? Est-ce que si il n'y avait plus de chrétiens d'un seul coup, ici à Chambéry, ou dans ta ville, ou dans ton village, ou dans ton pays, est-ce que tu resterais debout ? On devrait pouvoir rester debout, même s'il n'y avait plus de chrétiens. Pourquoi ? Parce que notre communion dépend du Seigneur. Nous recevons notre vie, notre renouvellement, notre force du Seigneur. Alléluia ! Et cela, personne ne peut nous empêcher d'être en communion avec Dieu. On mettait les chrétiens en prison. On leur faisait toutes sortes de choses, mais on ne pouvait jamais les empêcher d'avoir communion avec leur Dieu. Alléluia ! Gloire au Seigneur. Voilà une première vérité importante, mes amis. Première vérité importante, au milieu de nous, et dans l'Église en général. Chacun doit avoir sa communion personnelle. Sinon, les membres s'atrophient. Et le corps n'a plus la beauté qu'il devrait avoir, ni l'utilité qu'il devrait avoir. Nous commençons à encombrer les autres au lieu d'être une bénédiction aux autres. Avez-vous remarqué certains chrétiens ? Ils encombrent plutôt les autres qu'autre chose. Est-ce que c'est dans le plan de Dieu ? En général, un chrétien qui encombre les autres, c'est qu'il n'est pas en communion personnelle avec son Seigneur. Mais quelqu'un qui a une communion personnelle avec Dieu, il n'encombre pas les autres, il est une bénédiction pour les autres. Amen. Alléluia. Mes amis, il n'y a pas de substitut à cela. L'Église est là pour vous aider. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu sont là pour vous aider. Mais ce n'est jamais un substitut à votre communion personnelle avec Dieu. Jamais. Jamais. C'est pourquoi nous devons apprendre à cultiver cette communion avec le Seigneur, car c'est de lui, de cette communion-là, que dépend notre santé spirituelle, notre vie spirituelle, notre force spirituelle, notre sagesse spirituelle. Deuxième vérité dans le corps, la tête ne peut rien faire sans le corps. Et maintenant, voyez-vous, c'est une autre vérité. C'est, j'allais dire, l'autre aspect de la vérité. La tête ne peut rien faire sans le corps. Il a besoin de nous comme nous avons besoin de lui. Amen. Un corps n'est pas seulement les membres ici sans la tête, mais un corps n'est pas seulement aussi la tête sans le corps. Un corps, c'est la tête et les membres en même temps. Donc la deuxième vérité est celle-ci, la tête ne peut rien faire sans le corps. Première vérité, on ne peut rien faire sans lui. Mais lui, il ne veut rien faire sans nous. Parce qu'il est Dieu, il pourrait faire. Il peut tout faire sans nous, vous êtes d'accord avec moi ? Nous ne pouvons rien faire sans lui, mais lui ne veut rien faire sans nous. Il peut faire des choses sans nous. Bien sûr, il est Dieu, sinon il ne serait pas Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans lui, mais lui ne veut rien faire sans nous. Voilà, mes amis, une deuxième vérité importante. Cette vérité veut tout simplement dire que Dieu a besoin de chacun d'entre nous, de chaque membre de son corps. Amen. et que s'il doit agir, c'est toujours au travers des uns et des autres qu'il agira. Il est la source, il est la tête, mais il ne peut agir sans nous. Il a tes yeux pour voir. Il n'a que tes yeux pour voir autour de toi. La misère, la souffrance qui est autour de nous. Il n'a que tes oreilles pour entendre les soupirs des hommes, les pleurs des hommes. Il n'a que ta bouche pour annoncer le glorieux message de l'Évangile. Il n'a que ta bouche. Il n'a que tes mains pour prier pour ceux qui sont dans le besoin, pour faire du bien à celui qui est malheureux, pour donner à celui qui est pauvre. Il n'a que tes mains, il n'a que tes pieds pour aller là où il faut annoncer la bonne nouvelle. Il n'a que tes pieds, il n'a rien d'autre. C'est par nous qu'il agira, mes amis, par chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas dire, encore une fois, mais c'est le pasteur qui doit faire ça. C'est une erreur, c'est une grave erreur. Un membre qui ne travaille pas demeure spirituellement. Donc, deuxième vérité, la tête a besoin de chacun d'entre nous. Alléluia. Chaque membre est utile au Seigneur. Amen. Chacun d'entre vous, Dieu a besoin de vous. Gloire au Seigneur, il veut t'utiliser, il faut le croire. Un jour, au début de ma vie chrétienne, je lisais bien souvent des serviteurs de Dieu, la biographie des serviteurs de Dieu qui faisaient des grandes choses pour le Seigneur. Je me suis dit, bon, mais ça, ce sont des géants spirituels. Toi, Sam, qu'est-ce que tu es, un petit nain, là? Qu'est-ce que tu veux te mesurer à eux? Qu'est-ce que tu veux? J'étais jeune converti, je me disais, jamais, toi, Dieu utilise les autres, mais toi, alors, toi, t'es rien. Et tant que je croyais cela, mes amis, je tournais en rond et Dieu ne pouvait rien faire. Mais le jour où j'ai dit, Seigneur, je suis rien du tout, je suis rien du tout, mais je veux que tu m'utilises, je suis un membre de ton corps. Et tous les membres ont une activité, ont une responsabilité. Nous le verrons tout à l'heure. Et vous savez comment ça a commencé avec moi? La parole que le Seigneur m'a donnée pour m'encourager, c'était l'histoire de ce jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons. Et avec ces 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur, en bénissant tout cela, des multitudes ont été nourries. J'ai dit au Seigneur, j'ai pas grand-chose. Il me dit quoi? Qu'est-ce que tu as? 5 pains et 2 poissons? Oui, je dis, c'est à peu près ça, il n'y a pas grand-chose. Eh bien, donne-moi ces 5 pains et ces 2 poissons que tu as. Je vais les bénir. Et en bénissant ces 5 pains et ces 2 poissons, tu pourras nourrir une multitude. Je l'ai cru. J'ai dit, Seigneur, je le crois. Je n'ai rien du tout. Je n'ai rien. Pas grand-chose. Je ne peux pas dire que je n'ai rien du tout. Pas grand-chose. Mais 5 pains et 2 poissons, pas grand-chose, avec la bénédiction de Dieu, je vous assure, mes amis, des multitudes peuvent être bénies. Alléluia. Deuxième vérité importante, la tête ne peut rien faire sans, ne veut rien faire sans toi. Mes amis, n'avez-vous que 5 pains et 2 poissons? Apportez-les au Seigneur. Ne tombons pas dans l'incrédulité. En disant, oh non, c'est pas possible, Dieu ne pourra jamais. Mais si, il sera fait selon ta foi. Si tu crois que Dieu ne t'utilisera jamais, il ne t'utilisera jamais. Il sera fait selon ta foi. Mais abandonne-toi au Seigneur. Tu n'es pas grand-chose. Mais finalement, les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Amen. Les choses qui ne sont point pour confondre celles qui sont. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il est bien qu'il en soit ainsi, afin que toute la gloire en revienne à Dieu. Amen. Quand tu vois la bénédiction, quand tu vois qu'au travers de ta vie, des âmes sont sauvées, des âmes sont bénies, tu dis, mais je dirais, j'avais pas grand-chose. Ça ne peut être que le Seigneur. Ça ne peut être que le Seigneur. Parce que lorsque j'ai commencé
je réalisais que je n'avais rien du tout. Et si maintenant Dieu bénit, je suis toujours rien du tout. Et si Dieu bénit, c'est lui qui agit et je lui donne toute la gloire. Mes amis, Dieu veut vous utiliser. La tête ne peut rien faire sans le corps. Dieu veut vous utiliser. Amen. C'est pourquoi il est important d'être disponible dans les mains du Seigneur. Et Dieu vous utilisera. Une troisième vérité, une troisième loi physique du corps. La santé de tout le corps dépend de la santé de chaque membre. Amen. La santé de tout le corps dépend de la santé de chaque membre. On ne peut pas s'attendre à avoir une église bénie extraordinairement, qui marche bien, quand soi-même on ne marche pas bien. On ne peut pas s'attendre à avoir une église qui sauve des âmes, quand soi-même on n'est pas gagneur d'âmes. On ne peut pas avoir une église qui aime, quand soi-même on n'aime pas. On ne peut pas avoir une église qui est dans la paix, quand soi-même on n'est pas dans la paix. On ne peut pas avoir une église qui pardonne ses ennemis, quand soi-même on n'a pas pardonné son ennemi. La santé de toute l'église dépend de votre santé personnelle. Amen. Très important. Certains chrétiens veulent que tout le corps, que tout le reste soit en bonne santé, mais que, ben tant pis, s'ils sont malades et autres, spirituellement. Ils attendent la santé des autres sans que soient eux-mêmes fassent le nécessaire pour être sains spirituellement. Mes amis, c'est une vérité très importante. La santé de chacun dépend. La santé de tous dépend de la santé de chacun. Amen. Donc nous n'avons pas à nous plaindre. Si l'Église est faible, c'est parce que les chrétiens sont faibles. Si l'Église est forte, c'est parce que les chrétiens sont forts. L'Église est ce que tu es, mon ami. Amen. L'Église est ce que nous sommes. Elle ne peut pas être autre chose. Elle ne peut pas être autre chose. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire « Ah, l'Église ne fait pas ceci, cela » quand soi-même, on ne le fait pas. C'est insensé, n'est-ce pas? La santé de tous dépend de la santé de chacun. Si vous voulez donc que Dieu bénisse tout le monde, il faut que soi-même, on soit béni du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est une vérité importante. Autrement, nous risquons de tomber dans l'hypocrisie en attendant que la bénédiction vienne sur les autres sans soi-même vouloir payer le prix. On exige des choses, des autres quelque chose que nous ne mettons pas en pratique nous-mêmes. Et vous savez, c'est facile à tomber dans ce piège-là. Vous êtes d'accord avec moi? Combien de chrétiens, oh, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Oh, il y en a toujours beaucoup qui voient ce qui ne va pas. Mais eux-mêmes, j'ai remarqué une chose. Vous savez, comme on voyage beaucoup, en général, ceux qui ne font rien, ce sont ceux qui critiquent dans les églises. Ce sont justement ceux qui ne font rien. Ceux qui ne font rien. Un pasteur une fois a dit, il y a trois sortes de chrétiens dans une église. J'espère qu'il n'en est pas de même au milieu de nous. Trois sortes de chrétiens. Il y a ceux qui critiquent ceux qui font quelque chose. Alors, pour commencer, et ça commence comme ça, il y a ceux qui font rien. Voilà. Il y a d'abord ceux qui font rien. Alors, c'est leur ministère, entre guillemets. Et ils sont là pour surveiller les autres. Et puis alors, vous savez, quand ils surveillent les autres, ils sont impitoyables. Mais avec eux-mêmes, ils se passent de la pommade du matin au soir. Ils sont pleins de pommade sur le dos, partout. Donc, ceux qui ne font rien. Deuxièmement, il y a ceux qui critiquent ceux qui font quelque chose. Alors, ceux-là, ils pensent aussi avoir un appel spécial pour voir toujours ce qui n'est pas bien dans ce que les autres font. Mais eux, ils font toujours rien. Toujours rien, eux. C'est soi-disant leur ministère, vous comprenez? Ils font toujours rien, mais ils critiquent ceux qui font quelque chose. Et troisièmement, alors ça c'est les bons, et les vrais, il y a ceux qui font quelque chose malgré les critiques, qui ne se laissent arrêter par personne, qui font quelque chose malgré les critiques. Ça c'est les chrétiens qui sont en bénédiction à des multitudes de gens. Amen. Alléluia. Très important. Quatrièmement, le corps nous parle d'unité. Quand nous regardons un corps, il y a une merveilleuse unité dans le corps, n'est-ce pas vrai? L'unité. D'où l'importance de... Pour que ce corps puisse donner son plein rendement, il faut qu'il y ait cette unité, cette harmonie. Le corps parle d'unité, ou si vous voulez, un autre synonyme, harmonie. Harmonie. Parce que unité ne veut pas dire uniformité. Un corps n'est pas uniforme, vous êtes d'accord avec moi? On pourrait mieux même dire, le corps encore nous parle, nous inspire l'harmonie. L'harmonie. Une harmonie, mais dans une unité vraiment parfaite. Et quand les chrétiens réalisent cette harmonie entre eux, comme chaque corps, chaque membre qui est exactement à sa place, chaque membre qui fait exactement ce que Dieu lui demande, quelle force, quelle puissance dans ce corps, n'est-ce pas vrai? L'harmonie et l'unité, c'est un point très important dans l'Église, corps de Christ, dans l'Église locale, premièrement. Et cette unité, c'est bien sûr... Ce n'est pas une unité en dehors de la vérité, tout cela, tout ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui en parlant d'unité. Fermez votre Bible et puis on sera tous d'accord. Voilà, en quelques mots, ce que l'unité d'aujourd'hui dans certaines églises. Fermez votre Bible et puis on est tous d'accord. La Bible ne parle pas du tout d'une telle unité. En Christ. Nous sommes déjà un, si nous sommes nés de nouveau. Amen. Mais il n'y a pas d'unité sans la vérité de la parole de Dieu. C'est la vérité de la parole qui nous unit. Ceci est vital, n'est-ce pas vrai? Et nous le voyons dans les actes des apôtres. Partout, il y a cette unité fondée sur la vérité de la parole. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses. À plusieurs reprises, il est dit que... Dans les actes des apôtres, que les chrétiens étaient tous ensemble, ensemble, ensemble. Et chaque fois qu'il y a cette mention « ensemble », il y a toujours une bénédiction spéciale avec cela. Je notais quelques versets là, quatre versets dans les actes par exemple. Acte 2, 1, il est dit qu'ils étaient, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et qu'est-ce qui se passe quand on est tous ensemble dans le même lieu, dans cette même unité, autour de la parole de Dieu? Le Saint-Esprit descendit. Lorsque nous sommes dans cette harmonie, dans cette unité spirituelle entre nous, mes amis, le Saint-Esprit vient. Alléluia! Le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit agit d'une manière extraordinaire. D'où l'importance de bien veiller à ce que rien... ne viennent nous diviser les uns les autres, c'est capital. Lorsque la division entre, le Saint-Esprit s'en va, mes amis. Lorsque la division entre par une porte, le Saint-Esprit s'en va par l'autre porte. Mais lorsqu'il y a cette unité, ils étaient tous ensemble, ça a tellement réjoui le cœur du Seigneur, et le Saint-Esprit descendit. Alléluia. Si nous veillons à cela, mes amis, le Saint-Esprit se manifestera puissamment au milieu de nous. Alléluia! Mais là où il y a division, jalousie, rancune, suspicion, critique, le Saint-Esprit ne restera pas là. Le Saint-Esprit est comparé à une colombe qui est très sensible, qui aime la pureté, la vérité. Et quand nous sommes dans cet esprit de vérité et d'unité dans le Seigneur, la colombe divine se plaît à agir au milieu de nous. Alléluia! Vous n'avez même pas besoin d'appeler la colombe pour qu'elle vienne. Lorsqu'il y a cette harmonie, cette unité, la colombe est là, parce que c'est déjà un fruit de l'esprit au milieu de nous. Amen! Mes amis, quand nous sommes unis, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le Saint-Esprit vient au milieu de nous. Et sans le Saint-Esprit, que pouvons-nous faire, mes amis? On ne peut rien faire du tout. Donc, d'où l'importance de veiller absolument à cette harmonie entre nous. C'est capital. C'est vital. Tant que dans les actes des apôtres, dans la vie des premiers chrétiens, ils ont préservé cette unité spirituelle autour de la vérité. Et ils ont gardé cette harmonie. Le Saint-Esprit agissait avec puissance. Mais le jour où la division est entrée, alors le Saint-Esprit est parti. Combien nous devons veiller à cela? Une autre référence, acte 2, 46, 47. 2, 46, 47. Il est dit ici, au verset 46, « Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. » Assidus au temple. C'est merveilleux. Ils étaient ensemble. Et vous avez vu ce qui s'est passé après, verset 46. Donc, après, ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le verset 47, c'est la bénédiction qui va avec cette harmonie et cette unité. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Là où il y a unité et harmonie, des âmes sont sauvées. Amen. Pourquoi des âmes sont sauvées? Parce que Dieu dit, du haut de son ciel, oh, ceux-là, ils s'aiment vraiment comme une seule famille, comme une vraie famille. Ils sont là, ils s'aiment, ils expérimentent cette harmonie, cette unité, cette affection fraternelle. Mais ils ne peuvent pas rester tout seuls longtemps, ceux-là. Il faut que j'en envoie d'autres pour qu'ils puissent encore aimer, car ils sauront aimer si je les envoie au milieu d'eux. Alors, regardez un autre fruit de l'unité, de cette harmonie, des âmes. Le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Mes amis, il y a là une vérité importante. Si nous apprenons à nous aimer, à nous supporter mutuellement, alors nous apprendrons une grande leçon. Et quand Dieu nous enverra du monde, nous arriverons également à supporter la personne que Dieu nous envoie et à l'aimer aussi. Mais si nous n'arrivons pas à nous aimer ou à nous supporter mutuellement ici, quelle preuve aurons-nous que nous allons aimer la personne que Dieu va nous envoyer? Il n'y a aucune preuve, puisque déjà au milieu de nous, ça ne marche pas. C'est pourquoi Dieu dit, je n'ai pas besoin de l'envoyer là-bas, parce que l'autre va rentrer et puis il va sortir par la porte à côté. Et c'est pourquoi bien souvent, les inconvertis viennent et repartent, nous ne les voyons pas. D'où l'importance de veiller à cette communion, cette harmonie, cette unité entre nous, c'est vital. Amen. C'est vital, mes amis. On disait des premiers chrétiens, voyez comme ils s'aiment. Il y avait une harmonie entre eux, une unité qui touchait les païens. Et les nouveaux étaient heureux de se trouver dans cette nouvelle famille qui ne fait pas de distinction de race, d'intelligence ou de quoi que ce soit. Il n'y a aucune distinction avec le Seigneur. Alléluia. Et ensuite, au verset au chapitre 4, verset 31, ils étaient tous ensemble. Et qu'est-ce qu'il est dit? Verset 4, 31. Chapitre 4, verset 31. Il est dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand il y a l'unité, l'harmonie entre nous, qu'est-ce qui se passe? On est remplis du Saint-Esprit, comme on l'a lu tout à l'heure, et ensuite, et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Puisque nous vivons ce que nous disons, nous pouvons parler avec assurance. Amen. Pourquoi est-ce que bien souvent, nous ne parlons pas avec assurance? Parce que nous ne vivons pas ce que nous disons. Nous disons une chose, mais nous vivons tout à fait autre chose. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas mettre son sceau là-dessus. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand on vit ce qu'on dit, le Saint-Esprit se plaît à mettre son onction et son approbation. Et Dieu agit, et des âmes se convertissent. Et la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Alléluia. Voyez-vous pourquoi l'ennemi veut mettre la discorde, la division au milieu de son peuple, et surtout dans une église locale? C'est très important. Les chrétiens doivent être conscients de cette réalité-là. Amen. Très important. Et une troisième pensée, un quatrième verset, acte 5, 12. Acte 5, 12. 5, 12. Qu'est-ce qu'il est dit? Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Alors ici, tous ensemble au portique de Salomon, dans cette unité, dans cette harmonie spirituelle entre eux, la puissance de Dieu se manifeste par des miracles. Amen. Nous verrons beaucoup plus de miracles. Et la puissance de Dieu sera beaucoup plus à l'œuvre lorsqu'il y a cette manifestation de l'amour de Dieu au milieu de nous. Ne l'oubliez pas, l'amour de Dieu est le canal même de la manifestation de la puissance de Dieu. La source de la puissance de Jésus était sa compassion. Il est dit, et Jésus, ému de compassion, guérissait les malades. Voyez-vous, la source de sa puissance, c'était sa compassion. La source de la puissance de l'Église, c'est sa compassion. Entre eux, entre les membres. Et pour tous ceux au portique de Salomon, c'était où? Oui, au portique de Salomon, et cette compassion pour les autres aussi. Quand nous avons cette compassion entre nous et la compassion pour les autres, mes amis, la puissance de Dieu se manifestera par des prodiges et des miracles. Ne l'oubliez pas, il n'y a pas de manifestation de la puissance sans la compassion entre nous et pour les incrédules, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, d'où l'importance. Moi, je le vois à chaque fois que ma compassion baisse, aussi bien pour les frères et sœurs que pour les incrédules, la puissance diminue parallèlement. C'est en rapport, d'où l'importance d'être continuellement rempli de cette compassion entre nous et pour ceux du dehors. Et la puissance de Dieu se manifestera. Alléluia! Le plus petit d'entre nous peut manifester de grandes choses devant le Seigneur s'il est plein de compassion. Dieu l'utilisera. Amen! Alléluia! Gloire au Seigneur! Cinquièmement, on arrive bientôt au bout. Cinquièmement, le corps nous parle de diversité. Un corps nous parle de diversité. Le corps nous parle d'unité, mais aussi de diversité. Chacun d'entre nous, nous avons des talents différents. Et il ne faut pas se mesurer à l'autre. Il ne faut pas se comparer. Vous savez, quand on se compare à l'autre, il y a souvent deux réactions mauvaises, deux attitudes mauvaises. Soit vous vous comparez à quelqu'un qui est inférieur à vous, et ça vous remplit d'orgueil. Pauvre, dommage cette sœur, ce frère, dommage. Il n'a pas les talents que j'ai, il n'a pas les capacités, dommage. Il n'est pas aussi beau que moi, dommage, pauvre type. Quand on se compare à quelqu'un d'inférieur, on est rempli d'orgueil. Mais il n'y a pas que cela, il y a ceux qui se comparent à ceux qui sont supérieurs à eux. Et ils sont remplis de découragement. Oh, Seigneur, regarde l'autre. À lui, tu lui as donné des talents. À elle, tu lui as donné des talents. Moi, qu'est-ce que j'ai rien du tout. J'ai rien du tout, Seigneur. C'est pas possible. Qu'est-ce que je vais devenir? Je peux rien faire du tout. Vous voyez, on est rempli de découragement. En se comparant aux autres, inférieurs, ou qu'on croit inférieurs, on est rempli d'orgueil. Et aux autres qu'on croit supérieurs, on est rempli de découragement. Mes amis, diversité. Dieu vous a donné un talent à chacun. Et nous avons besoin des uns des autres. Amen. La loi du corps, c'est la complémentarité. Nous avons besoin des uns et des autres. Nous nous complétons tous mutuellement. Amen. Et quand quelqu'un ne fait pas ce qu'il doit faire, il manque. Il y a un manquement, il y a une lacune. C'est comme dans le chef... je lisais là une fois, un chef d'orchestre était en train de donner un grand concert. Et puis... il y en avait un qui avait le triangle là, vous savez là, comment on appelle ça, un triangle, un triangle. Oui, il avait joué son morceau, enfin il avait tapé son morceau, et puis après il a dit, bon ben, maintenant, ça va, j'ai fini mon travail, et ça y est, je peux m'en aller. Mais le chef d'orchestre, quand il a vu ça, il a dit, non, tu as joué ton morceau, mais on a besoin de toi jusqu'à la fin. Ta présence est indispensable. On a besoin de toi. Nous ne pouvons pas dire, ah, j'ai joué mon morceau, je m'en vais. Nous faisons partie de l'orchestre. Nous sommes unis à l'orchestre et nous avons besoin des uns des autres. Amen. Ou alors il y a l'autre qui peut dire aussi, il y a une autre histoire que j'avais lue aussi. Il a dit, oh ben moi, puisque c'est deux, trois petits trucs que je donne sur le triangle, ça fait rien si je le fais pas. Et tout à coup, le chef d'orchestre a dit, oh, et là, pourquoi tu n'as pas joué ton... Oh, mais c'était juste deux, trois coups que j'allais taper. Ça, c'était pas... Si, ce n'était pas rien. J'avais besoin de t'entendre, ça faisait partie de l'ensemble. Tu ne pouvais pas dire que ce n'est rien du tout, même si c'est pour taper deux, trois petits coups sur le triangle. Mes amis, Dieu a besoin de tous. Amen. Et quand nous avons fait ce que nous devons faire, nous ne devons pas partir. Nous devons être là. Nous faisons partie du corps. Alléluia. Comme si on n'est rien du tout. Un petit triangle. Non, c'est rien. Autrement dit, j'ai joué mon petit morceau et je peux m'en aller. Non, tu fais partie du corps. Alléluia. Tu n'as pas à fuir. Tu n'as pas à te croire inférieur aux autres. Alléluia. C'est un honneur que nous avons devant Dieu de faire quelque chose pour lui. Amen. C'est un honneur. Considérons ce que nous faisons comme un honneur. Gloire à Dieu. On en est où? 6. Le corps nous parle de responsabilité. Responsabilité. Chaque membre prend soin de l'autre. Hein? La main. Vous voyez, quand je transpire, la main, enlève ici. Hein? Quand on est enrhumé, voilà. Et puis chaque membre prend soin l'un de l'autre. La Bible dit, quand un membre souffre, tous souffrent. 1 Corinthiens 12, 26. Quand un membre se réjouit, est honoré, tous sont honorés. Voilà une vérité importante dans le corps de Christ et au milieu de nous, mes amis. Quand un membre est honoré, réjouissons-nous. Mais bien souvent, c'est le contraire que nous faisons. Quand un membre est honoré, nous pleurons. Non, Seigneur, c'est pas possible, tu l'as béni lui et puis pas moi. Et quand un membre souffre, on fait le contraire. On dit, c'est bien fait pour lui. Ça devait lui arriver, de toute façon, ça devait lui arriver. On n'ose pas le dire audiblement, mais quand un membre souffre, l'autre se réjouit. Voilà nos versions bibliques maintenant de certains chrétiens. Quand l'un pleure, l'autre se réjouit. Quand l'autre se réjouit, l'autre pleure. Où est-ce que nous pouvons aller avec cela? Le corps, la réalité du corps. Quand un membre souffre, tous souffrent. Amen. Et quand l'un se réjouit, on se réjouit. Réjouissez-vous du succès de l'autre, du don, du talent que Dieu a donné à l'un et à l'autre. Réjouissez-vous, mes amis. Et en vous réjouissant du talent que Dieu a donné à l'autre, Dieu vous bénira vous-même. Mais je termine, le corps nous parle de puissance. De puissance. Quand le corps est en bonne santé, quelle puissance il y a dans le corps. Amen. Quelle puissance, quelle efficacité. Quand tous les membres du corps sont en action, dans l'harmonie et dans la soumission à la tête. Quelle puissance, quelle performance. Alléluia. Quelle performance, quelle autorité, quelle puissance dans le corps. Mais il faut que tous les membres travaillent, vous êtes d'accord avec moi? Et que tous ces membres soumis à la tête. Ainsi, la puissance de Dieu se manifestera au milieu de nous. Mes amis, l'Église est un corps. Si nous en saisissons l'image et la réalité, la puissance de Dieu se manifestera au travers de tout le corps. Parce qu'il se manifeste au travers de chaque membre du corps. Mes amis, que Dieu nous bénisse et nous donne de réaliser ces vérités si importantes. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Il n'y a pas de membres passifs. Les membres passifs, ce sont des membres qui gênent plutôt les autres et qui empêchent les autres de faire ce que Dieu a voulu. Mais nous sommes tous des membres avec des talents, des capacités différentes. Si tous les membres sont en action, alors tout le corps sera fort, équilibré et puissant dans son témoignage. Et encore, c'est aussi une beauté extraordinaire dans le corps, une harmonie extraordinaire dans le corps. Je pourrais dire, c'est la 8e loi, si vous voulez, la beauté du corps. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes d'accord avec moi? Et si nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions, le monde verra la beauté de Christ en nous. Ils diront, ils ont été avec Christ, ils verront la beauté de Jésus en nous. Alléluia! Rien que de voir cette beauté de Christ, son amour, sa compassion, sa fidélité, sa douceur, son courage, son humilité, en nous et au travers de nous, alors l'Église aura un témoignage à rendre. L'Église sera utilisée par le Seigneur pour accomplir de grandes choses avec Dieu. Nous ferons des exploits. Alléluia ! Que le monde, en nous voyant, puisse voir la beauté de Christ au milieu de nous. Et ils sont attirés par cette beauté céleste, du caractère divin de Jésus dans nos vies. Et pour la gloire du Seigneur et pour le bien d'un grand nombre. Amen.
Thank you.